Is that same? Or what you see a cult with the Palestine together? That's the circonscription. Je ne sais pas comment ça va. Hamas a gagné presque tout ici. Ils ont gagné presque tout ici. Hamas a gagné à la grande surprise d'Israël et la grande surprise des États-Unis aussi. Et les 86 observateurs avaient dit que l'élection était libre et équitable.
Alors,
monsieur, oui.
Ils ont gagné en Cisjordanie aussi.
Oui, oui, oui. Ils ont gagné partout.
C'est
non, 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 excusez-moi. Je veux montrer les sièges. Alors, il y a un aspect qui est un peu... Maintenant, c'est ça. Aujourd'hui, c'est ça. Je vais essayer d'expliquer comment c'est rendu là. J'étais trop ferme. Je vais aborder la discussion avec vous tout à l'heure, mais... Moi, je prétends, je vais montrer des photos, que Hamas avait gagné dans toutes ces circonscriptions-là, et là, et l'autorité palestinienne, qui était, à l'époque, c'était Hamas, Fatah, autorité palestinienne, qui avait presque beaucoup moins de voix. Et ce qui est arrivé, c'est que Bush et Israël ont refusé d'accepter le résultat de l'élection. Or, il y avait une élection un an avant pour la présidence. C'est un peu le système français. L'élection législative sont séparées des élections pour le présidentiel. Maintenant, il arrive en France des fois que la cohabitation, François Mitterrand avait la cohabitation. Il y avait il était socialiste, mais la majorité ne l'était pas. Maintenant, Abbas avait gagné les élections présidentielles, c'est ça, vous avez raison. Mais Hamas avait gagné les élections législatives, n'est-ce pas? Ce que les Américains et Israël ont fait, on annule, on ignore, on laisse de côté le résultat des élections législatives. Et depuis ce temps-là, Abbas continue à gérer comme président, mais sans la législation. Alors, ça, c'est l'Assemblée si les gens avaient été permis de siéger. Ça, c'est Hamas. Ça, c'est que c'est le Fatah ou l'autorité palestinienne. Mais ça n'a jamais été convoqué. Alors, il n'y a pas eu de nouvelles élections. Alors, Abbas continue à gérer avec l'appui d'Israël et l'appui des Américains aux grandes dames des élections législatives. Et même, les candidats, je ne pourrais pas vous dire tous, mais beaucoup de candidats d'Abbas avaient été mis en prison. En tant que Cisjordanie. Oui.
Je suis un peu confus. Est-ce que vous représentez les résultats des élections législatives ou présidentielles?
Exact. Ça, c'est les résultats. Ça, c'est 132 sièges à l'Assemblée nationale. Il y a un bel édifice là, à Ramallah, mais ça n'a jamais été utilisé.
Législative.
Est-ce que j'ai mal dit?
Non.
Bon, alors. L'Assemblée n'a jamais été convoquée. De nombreux candidats du Hamas ont été arrêtés, mis en prison. Et d'ailleurs, un certain nombre sont toujours en prison. Hamas était interdit, il n'y a pas les élections. Abbas n'a pas été en mesure de prendre le contrôle à Gaza. Il a réussi à prendre le contrôle, continuer sa mainmise sur le West Bank. Il n'a pas réussi à contrôler le Gaza. Du coup, Abbas contrôle la Cisjordanie et Hamas contrôle Gaza. Vous me suivez, hein? C'est pour ça qu'on a cette division maintenant. OK? Et il n'y a pas eu d'élection depuis 15 ans. Et si vous posez des questions, je peux vous parler ma théorie pourquoi il y a peu d'élections. Oui. Bon. Alors, en 2017, l'Hamas voit que son manifeste, sa charte, lui a causé des ennuis. Ils ont fait une révision de la charte. Entre autres, ils ont éliminé ce langage un peu caricatural antisémite qu'il avait et spécifie que son combat n'est pas contre les juifs comme tel, mais contre les sionistes qui occupent leur terre. Et aussi, ils ont mis un peu d'eau dans leur... si je dis vin islamique, c'est pas... C'est pas ils ont diminué un peu l'aspect islamique. Et Israël, bien sûr, a dit que ça... c'est pas sérieux. Mais Patrick Martin, qui était journaliste du Globe and Mail à l'époque, il dit qu'il trouve que c'est un pas important et que le Canada devrait engager des discussions avec Hamas là-dessus. Mais le Canada ne l'a pas fait, ni non plus l'avion. Complètement exclu de toute conversation sur l'avenir de la Palestine. OK? Maintenant, Hamas, du coup, devient un peu le gouvernement de Gaza. Il gouverne sur un territoire qui est petit, c'est 40 km de long, 5 km de large, c'est à peu près 15% de la superficie de la ville d'Ottawa. Ottawa, maintenant, c'est très grand, c'est un peu ridicule, mais c'est 15%. 365 km². 2 millions de personnes, et c'est une véritable prison à ciel ouvert. C'est entouré de murs, des murs avec des caméras, avec des mitrailleuses automatiques. C'est quelqu'un qui reste dans un bâtiment, et avec des caméras, il peut surveiller tout ce qui vient trop proche de murs. Donc, le mur était impénétrable, ou au moins c'est ça que pensaient les Israéliens jusqu'en 7 octobre de cette année. C'est très beau. Le revenu estimé mensuel est à peu près 300$. Et ils sont, presque tous sont des réfugiés. Donc, ils ne sont pas des gardiens, ils sont des réfugiés. Ils n'ont qu'un souhait, c'est de retourner d'où ils étaient expulsés, dans le cas où leurs parents ou même leurs grands-parents étaient expulsés. Ils sont apatrides. Ils n'ont pas de pays, ils n'ont pas de passeport. Des fois, ils arrivent à voyager ailleurs, mais ils ont un document spécial de voyage, mais ce n'est pas un passeport comme nous. Nous, on prend le droit d'avoir un passeport comme étant automatique, et on sait que si on a des problèmes dans un autre pays quelconque, on peut faire appel au consulat canadien pour nous aider, ce qui font tant bien que mal, dépendant de la situation, mais au moins, on a ça. Ils n'ont pas ça. Et 40% d'eux sont des jeunes, en bas de 25 ans.
Le taux de
destruction, d'alphabétisation est très élevé. Souvent, les gens sont surpris de savoir qu'il y a 6 universités à Gaza. Et de vraies universités, je ne parle pas des Kétens, je parle des médecins, génies, toutes ces choses-là. Mais, ils vont beau avoir la formation scolaire, il n'y a pas d'emploi. Donc, il n'y a pas d'avenir. Il ne peut pas sortir, il n'y a pas d'emploi. Et ils vivent avec 300 piastres par mois. Oui, monsieur.
Est-ce que l'université est dispendieuse?
Tu sais, sans doute non, parce qu'ils ne pourraient pas y aller. Mais ils sont... Je ne saurais pas vous dire.
Okay.
Je dis que non, parce que c'est... Il y avait la plus grosse, c'était l'université islamique de Gaza. Okay. Mais on peut imaginer, ça veut dire qu'ils enseignent le Torah. Ou non. Moi, je connais un prof littérature anglaise à l'Université islamique de Gaza. Donc, c'est une vraie université avec des facultés différentes. Mais je n'ai jamais demandé combien ça coûte. Oui.
Mais comment sont financées ces universités?
Il y a deux principaux canaux de financement. Qatar, un certain nombre de pays arabes qui donnent des contributions. Mais aussi, il y a beaucoup à travers l'ONU. Parce que l'ONU, je ne pense pas que l'ONU finance directement des universités, mais l'ONU finance des écoles. Des écoles pour les réfugiés, pas pour des non-réfugiés, parce que 20% de la population de Gaza n'est pas réfugiée. Donc, eux, ils n'ont pas de subvention de l'ONU, mais les gens qui sont réfugiés, si. Et quand ils financent les écoles, c'est-à-dire payer les professeurs. Les professeurs, eux, ont de l'argent. Finalement, sans doute, ça devient une source de financement pour les universités, parce que nos jeunes vont à l'université et ainsi de suite. Suivant. Bon. Alors, la structure et la force d'Hamas. Hamas a des membres partout dans la société palestinienne, dans la Cisjordanie, dans Israël même, à Jérusalem, dans Gaza, et même dans les camps de réfugiés. C'est une partie politique, c'est un courant politique. Il est devenu la plus puissante organisation de résistance palestinienne. C'est vu comme ça par les Palestiniens, même si c'est des gens qui ne sont pas tellement d'accord avec les idées religieuses, ils voient que le Abbas n'est pas en mesure d'empêcher la croissance des colonies. Hein? Alors, Hamas prétend pouvoir se battre contre Israël. Il y a beaucoup de gens qui appuient là-dessus. On ne connaît pas la structure interne ou le nombre de membres, mais on estime qu'il y a à peu près entre 10 000 et 15 000 militaires. Il y a une aile militaire et une aile politique. Et l'aile politique forme le gouvernement de Gaza et ça fournit des services étatiques normaux comme éducation, santé, et ainsi de suite. Alors, j'ai fait une référence un peu au PQ tout à l'heure, mais je pense qu'il y a un aspect analogue que vous comprendrez. Hamas est à la fois un gouvernement, imaginons l'époque où le PQ était au pouvoir au Québec, où les gens se plaignent ou non des égouts, de l'éducation, en fait, ils doivent fournir des services. C'est une organisation politique avec un objectif, et l'objectif c'est la libération de la Palestine, n'est-ce pas? Et aussi c'est une idée de récupérer notre pays. Et je pense que à ce moment-là, je pense qu'on peut dire que le PQ avait un peu ces trois éléments-là. Il y avait un aspect de gouvernement, un aspect politique, mais aussi une inspiration que beaucoup de gens, même s'ils n'étaient pas membres du parti, ils pouvaient s'y reconnaître, n'est-ce pas? Hamas, c'était beaucoup comme ça. Okay. Alors, j'ai montré ici, c'est pas important ici, des drapeaux verts d'Hamas sont interdits partout en Palestine, mais lors des grosses manifestations, souvent on sort des drapeaux, mais on le cache vite avant que la police arrive, parce que tu ne restes pas assez mauvais quand même. Oui!
Est-ce que depuis son existence, la Hamas entretient des liens formels avec les frères musulmans et avec le Hezbollah?
La question est de savoir quels sont les liens actuels entre Hamas et le actuellement, depuis le 7 octobre, je ne sais pas du tout. Et je ne peux pas vous donner une réponse très claire. Je pense qu'ils ont des relations. Hamas a des représentants à Istanbul, en Turquie, dans d'autres pays arabes. Je pense qu'ils ont des contacts avec le Hamas, avec le Hezbollah, je suis sûr, mais ils ne sont pas tous sur le même. Même très récemment, le président de Hezbollah avait fait un gros discours il y a 10 jours à peu près, disant que c'est Hamas qui avait décidé de faire cette sortie. Nous, on n'était pas consultés, on n'est pas dedans. Et tant qu'Israël ne nous attaque pas, on ne va pas se mêler. Donc, il y a une certaine... Je pense que les gens de Hamas n'étaient pas tellement contents, mais voilà. Oui, okay, prochain. Alors, oui.
Quelle est l'influence des frères musulmans du mouvement de Hamas?
Tout ce que je sais penser, c'est que Hamas était issu des frères musulmans à l'origine. Ils sont séparés en 87, comme je l'ai dit. Et frères musulmans était une organisation religieuse, jihad, sur toute la région, tout le monde.
Okay.
Hamas s'est décidé mouvement national. C'est la différence. Ils s'occupaient des Palestiniens en particulier. Mais quelles sont les relations? Ils ont sans doute des relations, mais je ne sais pas. Je ne suis pas dans le secret.
Mais qui finance
le
Hamas?
Comment?
Qui finance
le
Hamas?
Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais sans doute.
Qu'est-ce que vous...
J'imagine qu'il y a un certain appui qui vient de Qatar, mais beaucoup des gens, des membres, au moins à Gaza, mais c'est partout, les profs à l'université, les gens qui travaillent, les médecins, beaucoup donnent de l'argent à Hamas parce qu'ils voient Hamas comme leur défenseur. D'accord, et je pense que on fait beaucoup de tapas sur la corruption de Hamas, mais quand je suis là, quand j'étais là, ce n'était pas le sentiment que j'ai eu. Je sais pas. C'est que les gens voyaient Hamas. Ce qu'ils n'aimaient pas dans Hamas, c'était leur rectitude, leur jésuite. Mais ce n'était pas parce qu'ils prenaient de l'argent pour avoir des belles voitures.
On n'entend pas.
Excuse-moi. Vous n'avez pas manqué grand-chose. Excusez-moi. J'ai essayé de dire que les gens qui... Madame a dit qu'il n'y a pas beaucoup d'argent pour Hamas. Et moi, mon impression que les gens de Hamas ne gagnent pas beaucoup. Ils sont presque... Même, je sais que les profs, je sais, on m'a dit, j'ai parlé avec plusieurs profs à l'université islamique de Gaza, qui, eux, travaillaient volontairement à moitié semaine. C'était leur dédication. Les deux personnes auxquelles je pense qu'ils sont morts maintenant. Bon, alors, en 2018, Hamas a fait une autre tentative, ça s'appelle la Grande Marche de Retour, The Great March of Return. C'était une désobéissance civile massive, comme les élections n'ont pas été réussies. Alors, des centaines de milliers de personnes, dizaines de milliers de personnes, excusez-moi, s'approcher à la frontière en réclamant le droit de retour. Ils avaient l'idée que Israël n'oserait pas les tuer. Et que c'est un appel à l'Occident, un appel au secours à l'Occident. Mais ça a raté. Les Israéliens étaient très d'accord, très prêts à les tuer. Ils ont tué 200. Moi, j'étais là. J'ai passé une semaine là. Ils ont tué 200, ils ont blessé plus de 20 000 personnes. Et les pays d'Occident ont plus ou moins... La seule fois que Trudeau est intervenu, à ce que je sache, c'est quand un docteur canadien avait été blessé. Son nom échappe pour tout de suite. Terry Glubani, un docteur. À part ça, le Canada n'a pas fait beaucoup grand cas. Il y avait un appel international pour faire une enquête dessus et le Canada a voté contre que l'enquête se soit faite.
Alors, ça c'est vu du côté israélien, ça c'est le mur. Et sur le mur, tu vois, tu as des... Comment est-ce qu'on dit sniper? Comment ça?
Tireur
d'élite.
Alors là, il y avait des jeunes Palestiniens qui... Moi j'ai vu ça, qui osaient couvrir jusqu'à avant, plus ou moins. Tenter les Israéliens, et même ils venaient avec des ciseaux pour couper la clôture. Des cisailles, voilà. Alors, c'était un peu montrer sa bravoure. Tu cours à la clôture, tu coupes un petit peu, ben tu reviens un peu comme un trophée de guerre. Et 9 fois sur 10, tu vis. Mais une fois sur 10, tu es descendu. Moi, j'ai vu ça avec moi, j'étais souvent le gaz lacrymogène, mais moi, je restais ici. Je n'osais pas, j'avais pas de raison, j'étais là pour voir, pas pour participer. Suivant. Tout ça, là-dedans, tout ça, je vais essayer de vous expliquer comment je vois le dilemme stratégique de Hamas. C'est mon dernier diapo. Les hommes et les femmes et les enfants qui vivent à Gaza ont besoin d'une solution. Ils veulent retourner à leur terre. Ils veulent la fin du blocus, ils veulent avoir un train de vie normal. Ils voient, quand tu montes sur les anciens blocs appartements à Gaza, tu peux regarder par-dessus et tu peux voir les terres de ton grand-père qui sont travaillées pour quelqu'un d'autre. Et toi, tu vis ici sans emploi, à 300 piastres du mois, et eux, ils vivent, ils ont des piscines, ils s'amusent, mais ça enrage. Alors, les conditions à Gaza s'aggravent d'année en année. Même en 2021, l'ONU avait dit qu'en 2022, les conditions seraient invivables. On est maintenant en 2023. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire eau non potable. Ça veut dire des effluents d'eau usée qui ne sont pas traités, la plage qui est polluée. Ça veut dire l'électricité qui est contrôlée par Israël est intermittente. Moi, j'ai plus d'une fois, je revenais à mon hôtel avec mon cell phone, la lumière de mon cell phone, parce que chemin n'était pas très, très... Non, pas seulement éclairé, il n'était pas smooth, c'est parce qu'il n'y a pas de moyens d'entretenir. Et il y a une crise sanitaire, il y a beaucoup plus de maladies de toutes sortes qui se donnent, et des maladies psychologiques. Moi, j'ai parlé avec des psychologues, des psychiatres qui sont là, c'est fou. Hein? Alors, quand Netanyahu dit que des gens de Hamas sont des animaux, je dis, ben, qui les a mis comme ça? Comment ça s'est rendu? Ils ne sont pas des animaux. Alors, les problèmes ne sont pas seulement à Gaza, en Cisjordanie, les colonies israéliennes continuent de croître. Hamas ne peut y faire rien. Israël semble invisible. Et le monde semble laisser les Palestiniens perdre. Alors, ils ont trouvé qu'il n'y a pas de solution démocratique. Quand on fait un vote, ça ne compte pas. Il n'y a pas de solution pacifique. Quand on fait une manifestation pacifique, on se fait massacrer. Alors quoi? Est-ce qu'on va mourir à petit feu? Jusque-là, il y a 14 000 personnes tuées par les bombardements israéliens. C'est terrible. Mais à chaque année, il y a 10 000 qui meurent pour des maladies qui sont préventibles. Hein? Donc, c'est terrible que ça arrive tout d'un coup, mais c'est à continuation. Alors voilà, la masse voulait trouver une façon d'attirer l'attention sur le monde, pour que le problème soit adressé aussi par Israël que par le monde international. Donc ça, c'est la fin de ma présentation. Et là, on est quelques temps. Ça va? Bonsoir? Oh non, non, pas des questions. OK. Je vais prendre congé d'eau. Madame et monsieur. Oui. Okay.
Alors, les appels pieux qu'on fait pour
la
solution de deux États par nos gouvernements,
alors la question est de savoir qu'est-ce que je pense de la solution à deux États. Je peux répondre en deux temps. Je pense qu'Israël n'a jamais eu l'idée de faire... eux, ils voulaient le faire dès le début. Mais ça passait publiquement, internationalement, quand on est pour une solution à deux États. On continue à négocier, mais on continue à prendre des terres pendant qu'on négocie. Et je pense que pour les gouvernements internationaux, comme Canada, une solution à deux États, ça semble juste. Chacun qui vit paisiblement ensemble. Donc, ça passe politiquement. Si on ne regarde pas trop de près, ça passe politiquement. Mais je ne pense pas que c'était jamais le projet d'Israël. Deuxième aspect, même si Israël avait été d'accord, même si Israël avait été d'accord, et il y avait des Israéliens qui étaient d'accord, je ne pense pas que ça aurait apporté une solution pour les trois quarts des Palestiniens. Une solution à deux États aurait peut-être pu marcher si c'était vrai que... Bon, vous pouvez trouver une carte, n'importe quelle carte. Voilà. Oups. OK, ben, si c'était vrai que la majorité des populations, des peuples palestiniens vivaient ici, donc s'il y avait une zone israélienne et une zone palestinienne, on pourrait imaginer une solution à deux États. Même si cette zone-là est juste 22% de leur terre originaire, donc c'est injuste, mais possible. Mais c'est pas ça. Seulement, le quart de la population palestinienne vit ici. Le quart. Il y a des gens à Gaza, il y a des gens qui vivent dans Israël, et en plus, il y a 7 millions de Palestiniens réfugiés en Syrie, en Jordanie et au Liban. Donc, la clé de ceux qui mettaient de l'avant la solution à deux États, c'est qu'on laisse de côté tous les autres. Donc, les autres, c'est farbal. Ils sont. Non. Je ne pense pas que ça aurait pu marcher. Alors, n'importe quel Palestinien qui avait signé d'accord pour deux États, il va se faire et jeter. On pourrait créer un deal, mais ça ne pourrait pas marcher, selon moi. Selon moi. Il faut que ça soit beaucoup plus radical que ça, selon moi. Il y a monsieur.
Les accords de Schlo,
oui.
Pourquoi ça
les accords de Oslo, c'était une façon de tenter de formaliser cette solution de deux États. Beaucoup de Palestiniens étaient contre, mais certains Palestiniens ont dit, au moins on prend ça et on pourrait peut-être aller de l'avant après. Parce qu'ils ont trouvé que Israël n'a pas respecté. Au lieu d'être un point de départ, c'est un point de recul des choses. Et ça, ça provoque finalement l'intifada où les gens ils disent que non, ça ne marche pas.
Ça divisait quoi? L'accord était porté sur quoi?
Alors, l'accord d'Oslo était plus ou moins pour entériner ça, okay? Mais en le divisant en trois zones différentes, et on dit aux Palestiniens, vous avez le droit maintenant de gérer la zone A et la zone B, on, tous les deux, on, parce que c'était, tout ça, c'était sous occupation israélienne, n'est-ce pas? L'idée d'Oslo, c'était de diviser ça en trois zones différentes, une zone qui était sous contrôle palestinien, une autre zone qui était sous contrôle palestinien, israélien, et une zone mitigée. Et l'idée, c'était dans cinq